Alors, moi, je m'appelle Amandine Guindou. On m'appelle aussi Mamouchi. Je suis danseuse, aussi chorégraphe. Et puis, je suis aussi enseignante d'anglais au secondaire 2. Les pronoms que j'utilise, c'est elle, actuellement. Et sinon, moi, mon background, c'est plutôt le crump. Donc, c'est une danse urbaine née dans les années 2000, à peu près aux États-Unis, qui est une danse qui vise un dépassement de soi, donc on va un peu puiser dans une énergie un peu extrême, intense, pour qu'il y ait un peu toutes ces émotions qui sont parfois négatives qui sortent. Et puis j'ai commencé ça il y a 8 ans maintenant. Et puis là, gentiment, je suis en train de faire un peu une transition vers le monde contemporain parce qu'il y a eu des propositions justement de scène. Et puis sinon, en parallèle, ben, je continue aussi à développer ma danse dans le milieu urbain. Par des battles, par d'autres sortes de concours. Ben, moi, j'ai commencé la danse directement par la chorégraphie, mais dans le contexte des danses urbaines. Donc, pour moi, c'était très tôt, c'était clair que ça serait très difficile de faire une carrière ou en tout cas d'en faire un métier par la suite. Et puis, par le biais du crump, j'ai pu développer un peu cette qualité de mouvement, ces compétences qui ont fait que enfin, je me suis un peu diriger vraiment à fond dans cette danse à 100%, donc j'ai arrêté tout ce que je faisais à côté. Et puis ensuite, par la suite, j'ai commencé à avoir un peu des perspectives professionnelles, mais plutôt comme des perspectives qui me permettraient d'avoir peut-être un mi-temps dans la danse et puis un mi-temps ailleurs, mais qui ne me permettaient pas vraiment d'en vivre. Et pour moi, c'est ça le plus gros frein actuellement par rapport à ma pratique, c'est de me dire que actuellement, je danse, je danse bien. En tout cas, je suis reconnue par mes pairs. En 2020, j'ai gagné un titre qui est du coup danseuse de l'année 2020 dans ma catégorie, ce qui est beaucoup, surtout avec une année Covid. Mais de me dire que malgré tout ça, qu'il n'y avait pas vraiment de perspective d'en vivre, pour moi, c'était un peu du coup d'admettre que quelque part, c'était quelque chose qui devait avoir une place secondaire. Et j'étais pas trop d'accord avec ça. Et c'est là où je me suis renseignée sur comment justement vivre de son art en Suisse, et je me suis rendu compte qu'il y avait des circuits un peu qui existaient déjà pour la danse contemporaine, et je me suis dit ben il faudrait essayer de les rejoindre parce qu'un peu c'est la seule solution qui permettrait de professionnaliser un peu ma pratique, même si j'étais déjà à un niveau international, même si je faisais déjà partie des noms qu'on citait dans ma pratique, je me rendais compte que tant que j'avais pas franchi cette étape-là, donc d'aller dans des institutions contemporaines, ben en fait, j'allais pas pouvoir en vivre. Donc pour moi, c'est le plus gros frein, en tout cas pour les artistes qui viennent du milieu urbain, c'est de trouver un moyen de vivre de cette pratique, parce que sinon, en fait, on limite son potentiel, parce qu'on peut pas s'entraîner toute la journée, parce qu'on a un job alimentaire ou quelque chose d'autre, mais en même temps, on n'a pas réellement un choix de se dire, ben, on va intégrer telle compagnie et puis qu'on va pouvoir en vivre. Il y a toujours deux mondes qui ont très peu l'habitude de communiquer. Et du coup, maintenant, c'est un peu là où j'essaye de travailler, de me dire, bah, comment est-ce que moi, avec le peu de contacts que j'ai, comment est-ce que j'arrive à ouvrir la porte à d'autres pour que ce soit plus facile pour eux de faire ce pas et d'aller à la rencontre justement de ce circuit qui existe et qui fonctionne pour beaucoup d'artistes. Et voilà un peu, en tout cas, par rapport à ma pratique et puis comment, avec quels outils ou quels éléments est-ce que moi je dois composer un peu au quotidien. Et ça fait que concrètement dans ma réalité, ben moi je suis enseignante, c'est un métier qui permet d'avoir du temps de travail libre à la maison. Donc ça me permet aussi de placer là des moments de répétition, de danse. Je travaille à mi-temps, donc c'est aussi un choix pour me permettre d'avoir le temps de danser. Et après, au-delà de ça, ben, c'est de pouvoir à chaque fois organiser mes répétitions pendant mes vacances scolaires. Enfin, c'est tout ce travail-là, du coup, d'avoir deux jobs, en fait. C'est clairement ça. Et ouais, je me dis que ça ne devrait pas être comme ça. Je vois que dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Donc, je me dis qu'il y a toujours la possibilité que ça change et que ça peut que changer si on met en lumière le fait qu'il y a un petit problème. Et du coup, c'est un peu ce que j'essaye de faire à ma manière. Et là, de aussi proposer des solutions. Donc là, actuellement, c'est ces éléments-là qui, on va dire, conditionnent un peu ma pratique. Disons qu'en Suisse, le crump, c'est, faut savoir que ça fait très longtemps que c'est présent dans le paysage culturel. Déjà, on va dire, aux alentours de 2005. Donc c'est une danse qui est née dans les années 2000. Mais très tôt en Suisse, il y a déjà eu un mouvement qui était avec les fondateurs qui s'appellent les Warriors, donc qui ont vraiment amené ce mouvement en Suisse, qui l'ont développé, qui sont allés un peu dans toute la Suisse représenter cette forme d'art. Et puis ça fait que du coup il y a une culture du crumb qui est née principalement à Genève, où c'est là où en tout cas il y avait un peu un espèce de berceau du crumb en Suisse. Et il y a eu des événements qui ont fait venir des gens de partout dans le monde. Donc on a eu les pionniers, enfin Tie-Dyes est venu, donc Tie-Dyes qui est un des créateurs du crumb est venu en Suisse. On a eu vraiment beaucoup de personnes qui sont venues en Suisse et qui ont du coup inscrit la Suisse un peu sur la map du crumb mondial. Et moi je suis arrivée bien après tout ça, mais du coup j'ai eu la chance de directement arriver dans un mouvement ou une culture qui était développée et qui était à un niveau mondial. Et c'est un peu grâce à ça, grâce à tout ce qui a été posé un peu avant que moi j'arrive, que j'ai pu avoir un accès à des informations qui étaient de qualité et qui m'ont permis de progresser. Et puis très rapidement, parce que quand tu prends 8 ans dans une carrière de danseur, c'est rien. En 8 ans de pouvoir bien évoluer. Donc c'est, en Suisse en tout cas, cette pratique elle est vraiment développée, puis elle est vraiment de qualité. En fait, le crump, c'est une danse qui à la base se voulait spirituelle. Donc à la base, c'était un peu comme une espèce de prière. Et puis elle est née dans un contexte particulier, comme beaucoup de danses urbaines. Elle naît dans un contexte où c'est souvent des quartiers défavorisés, où les jeunes ont très peu de perspectives d'avenir et très peu d'outils pour s'exprimer positivement. Et donc naturellement, avec la danse, ça demande peu de moyens. C'est plutôt les danses qui se sont développées, ou en tout cas les pratiques qui sont comme ça très peu coûteuses. Et donc il y avait déjà le hip-hop qui donc existe depuis bien plus longtemps, et le crump est arrivé un peu comme une danse qui se veut extrême parce qu'elle décrit une réalité aussi qui est très extrême et très violente. Et les fondateurs du crump, ils cherchaient un moyen de ne pas exprimer ça par la violence, en tout cas ne pas être violents les uns avec les autres, parce qu'ils se rendaient bien compte que cette violence elle devait pas être dirigée vers ceux qui partagent un peu cette souffrance. Et c'est comme ça qu'à travers cette danse, ils se poussent les uns les autres à sortir ses émotions. En tout cas, à la base, c'était ça, sortir ses émotions et du coup, prier pour que ce soit peut-être meilleur demain, ou tout simplement accepter que c'est dur, en fait. On a aussi besoin de ça, de moments où on peut tous accepter que ouais, là, ce qu'on vit, c'est vraiment pas cool, quoi. Et du coup, ça a un peu démarré comme ça. Et toutes les bases, tous les mouvements qui ont été développés par la suite, en fait, c'est pour permettre cette expression-là. Et maintenant, on arrive bien sûr, on est à plus de 20 ans plus tard, la danse et la pratique, elle a évolué, mais ça ne change pas que le crumb reste quand même une danse qui est presque revendicatrice ou politique, où après chacun le met au niveau où il le vit, tu vois. Et en plus de ce truc revendicateur, c'est en tout cas une danse où l'important, c'est d'être vrai, c'est d'être soi-même et de ne pas être dans une performance. D'autre part, il y a aussi tout ce qui est communautaire qui est hyper important dans le crump et qui est lié à comment sa naissance s'est faite. C'est que souvent, c'était pratiqué dans une session. Donc les battles, c'est arrivé par la suite. Et du coup, dans une session, il y a le fait que les personnes qui constituent le cercle de la session ont une énergie, ou en tout cas canalisent une énergie, et le danseur, en fait, lui, il exprime comme ça aussi son énergie, son émotion, etc. Et en fait, le public lui rend cette énergie. Et donc, en fait, c'est pour être un peu dans un cercle où il y a cette communication qui fait que l'énergie ne fait que de monter et s'optimiser. Et du coup, c'est ce que nous, on appelle la hype, c'est ce cercle d'encouragement qui te dit que, oui, tu donnes tout, mais c'est bien, continue. Et donc voilà, la danse, en tout cas, elle est née comme ça. Donc il y a cet élément revendicateur qui est vraiment au centre, mais il y a aussi cet élément de communauté et puis d'être en lien, même dans les mauvais moments, qui reste quand même très, en tout cas, j'ai l'impression qu'il est très au centre de l'identité du crump. Et après, sinon, dans les mouvements, si on doit décrire précisément ce que c'est, en fait, c'est comme tous les mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais c'est comme si on les poussait à l'extrême. Donc, ça veut dire qu'on va chercher des changements de rythme, des changements de niveau, des intensités qui varient beaucoup. Donc, on est vraiment dans cette rupture. On cherche ces éléments de rupture. Donc, quelqu'un qui regarde le crump, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir que ça part dans tous les sens. Et après, au fur et à mesure, plus on regarde du crump, plus on va réussir à lire les émotions, plus on va réussir à sentir la technique et à sentir à quel point, même pour hurler, ça nécessite en fait de savoir comment porter sa voix. Il y a quand même une technique, même dans le fait de... Enfin, même dans une expression pure, il y aura toujours un élément technique qui va faire qu'on l'a mieux entendu crier, elle, que l'autre. Donc il y a aussi ça dans le crump, c'est comment est-ce que tu développes ces qualités de corps qui te permettront d'exprimer au mieux ta rage, ta tristesse, ta joie, peu importe quoi. Ouais, le crump est né dans les années 2000 aux États-Unis, à Los Angeles, donc dans les quartiers défavorisés de Los Angeles. Les États-Unis, avec l'histoire que ce pays a, que ce soit avec les peuples mis en esclavage, que ce soit avec les autochtones, il y a un élément qui est assez tendu quand on parle de race, parce qu'aux États-Unis c'est comme ça qu'ils en parlent en tout cas. Et quand on parle de quartiers défavorisés, il y a dans beaucoup de cas où c'est synonyme de population racisée. Aux États-Unis en tout cas, c'est assez flagrant. Et donc ces personnes qui ont inventé le crump, en tout cas, sont tous afro-américains. Et ce qui est clair, c'est que le système d'oppression est tellement visible et palpable au quotidien que pour eux, comme ils ont pu aussi l'exprimer par la suite, c'est une danse qui défend quelque chose aussi de politique, enfin, le droit de vivre, de pouvoir sortir de chez soi et être sûr de rentrer le soir. Enfin, il y a tout ça. Enfin, on a pu en entendre parler brièvement en 2020 avec toutes les violences policières, mais il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui existe depuis bien plus longtemps aux États-Unis et qui, avant, avait une forme certes plus violente, mais ça ne change pas que la violence reste la violence entre l'esclavage jusqu'à maintenant. Ça reste quand même des populations qui vivent des violences qui sont assez traumatisantes au quotidien. Et en Suisse, on a une réalité qui est quand même différente, dans le sens où on a plutôt des micro-agressions. Alors que de ce que moi j'ai compris du contexte américain, c'est quand même beaucoup plus macro. Et du coup, je pense qu'en Suisse, le crump, il se veut pas forcément aussi politique. Mais bizarrement, je pense pas que c'est une coïncidence, les populations qui finissent par choisir cette danse en Suisse sont aussi des populations qui sont souvent racisées et ou défavorisées. Donc je pense qu'il y a aussi quel outil est-ce que tu peux utiliser quand tu es dans une position où tu es dépossédé aussi pour te mettre en position avec un peu plus peut-être de pouvoir ou en tout cas de dignité. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même cet élément qui est au centre, mais ce qui est clair, c'est que en parlant avec beaucoup de crumpers en Suisse, j'ai pas l'impression que eux crumpent pour survivre. J'ai l'impression qu'ils crumpent parce que c'est un bon exutoire. Mais même la notion d'exutoire, j'ai l'impression qu'elle présuppose quand même d'être dans une vie qui est plus ou moins équilibrée et confortable. Alors que la survie, c'est vraiment que si je ne fais pas ça, je vais finir dans une cellule ou je sais pas comment on dit en français, grave, dans un cercueil. Donc forcément que ce n'est pas le même rapport. Après, est-ce que les crumpers américains sont tous dans cette mentalité-là? Je ne pense pas. Je pense que certains n'ont peut-être pas envie de se poser plus de questions et ont justement juste envie d'avoir un espace safe où ils savent qu'ils peuvent se sentir bien en repartant. Et est-ce que tous les crumpers suisses sont dans quelque chose d'uniquement récréatif? Je ne pense pas non plus. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a l'air d'avoir ces tendances quand même en Suisse où... même quand il y a eu tous les événements en lien avec les violences policières, j'ai vu très peu de danseurs utiliser cet outil pour exprimer leur mécontentement ou malaise, alors qu'aux États-Unis, c'était presque tous les danseurs qui prenaient juste le temps de se filmer et exprimer par le mouvement ce qu'ils ressentaient. Et moi, je pense que ça montre bien l'exemple de comment est-ce qu'ici on utilise l'art, quoi. Presque tout est politique, je pense. Et maintenant, c'est... si on en a conscience, on peut faire des choix qui, on va dire, modulent la société de demain. Si on n'en a pas conscience, il y a beaucoup de chances pour que toutes ces questions ne soient jamais relevées, j'ai l'impression. Que du coup, juste prendre conscience que certains actes sont politiques, ça peut aussi, des fois, nous donner le choix de le faire ou pas. Moi, personnellement, parce que je suis quelqu'un de... je sais pas pourquoi je suis intense des fois, mais Du coup, ça fait que j'aime beaucoup me poser des questions sur ce que je fais et l'impact que ça a et de choisir à partir de là, parce que bien sûr que ce serait naïf de dire que tous mes choix vont dans le sens de mes convictions. Il y a des fois des choix qu'on fait qui vont pas dans le sens, puis ma foi, ça fait partie de la vie aussi d'être imparfait. Mais je sais qu'avec la danse, moi j'ai envie en tout cas que ça devienne un safe space pour le plus de monde possible. Donc du coup, j'essaie de poser des actions dans ce sens-là, et c'est pour ça que je disais que si avec le peu de contacts que je développe, j'arrive à faire le pont entre ces deux mondes, ben moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui auront une vie beaucoup plus confortable en tant qu'artiste, et ça je trouve bien que j'ai la possibilité de le faire. Est-ce que c'est ce que je m'évertue à faire? Non, mais si j'ai la possibilité de le faire, pourquoi pas? Donc vraiment ce niveau-là. Et pour ce qui est de par rapport aux manifestations, ben, qu'est-ce qu'on peut amener du point de vue artistique? Donc est-ce que danser dans les manifestations, ce serait une solution ou quelque chose d'envisageable pour moi? En tout cas, actuellement, j'ai l'impression que... Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me paraît pertinent parce que j'ai pas l'impression que ça aurait un impact autre que du spectacle. Et j'ai pas l'impression qu'au moment des manifestations, on a besoin de spectacle, vraiment. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que je choisis de pas le faire actuellement. Mais pour ceux qui le font et qui sont compris... J'ai conscience aussi que ça peut vraiment toucher des personnes à un autre niveau. Peut-être qu'au niveau du débat, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et en voyant quelqu'un qui, comme ça, pleure avec le corps, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se déclenche. Et ça, c'est pour ça que je respecte vraiment les gens qui font ça. Mais ouais, malheureusement, il n'y a pas de bonne manière de revendiquer. Enfin, voilà, ça reste quelque chose qui est personnel, quoi. Le crump, c'est une danse et une culture qui est très, 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 on va dire, organisée en système. C'est un système qui est très... ouais, j'ai l'impression que c'est assez clair, et c'est même quelque chose qui est enseigné dès le début, de comprendre comment naviguer dans ce système-là, qui a quelle place, pourquoi. Et du coup, moi, il faut savoir que j'arrive tard dans le mouvement crump suisse. Donc, de fait... je reste une nouvelle dans le mouvement, parce que dans le crump il y a ce que nous on appelle les OG, c'est les personnes qui sont à l'origine. Donc aux États-Unis, les OG ça restera les personnes qui ont quand même inventé la danse et qui ont mis qui ont vraiment mis leur grain de sel pour construire la base. Donc on a Tide Eyes, Mio, Miss Prissy et Lilsi, qui était là vraiment à l'origine. Après, il y a d'autres personnes qui ont amené des éléments, mais actuellement, c'est un peu... Tout le monde se met d'accord sur le fait que c'est ces quatre personnes qui ont co-créé le crump. Et du coup, ces personnes, c'est les seuls qu'on appelle les originateurs. C'est les seuls. Personne d'autre peut arriver, même après 35 ans de crump, on ne pourra pas dire « je suis un OG ». Il y a ça, malheureusement. Après, il y a ceux qu'on appelle les vets. Les vets, c'est ceux qui ont... C'est un peu comme les vétérans à la guerre, c'est ceux qui se sont battus pour la cause, mais qui d'une manière ou d'une autre maintenant peut-être sont plus actifs. Et donc eux aussi, on les respecte, et souvent ils vont être mentionnés, cités comme des personnes qui ont peut-être ouvert un style dans le crump, ou des personnes qui ont amené un mouvement. Il y a vraiment cette reconnaissance-là. Et puis après, à partir de là, il va y avoir ce qu'on va appeler les heavy hitters. Donc les heavy hitters, c'est des gens qui crumpent et qui sont à un niveau, à un très très bon niveau de crump, où ils pourraient, on va dire, aller en battle contre les meilleurs. Donc les heavy hitters, c'est les gens qui, en ce moment, sont les plus forts. Et puis après, l'autre catégorie qui a été faite, c'est ce qu'on appelle les rookies. Donc les rookies, c'est les crumpers qui sont dans leurs les deux premières années de crump en principe. Après, il y a des gens qui aiment bien tirer jusqu'à 5 ans, parce que le crump, c'est une danse qui prend beaucoup de temps à intégrer. Mais ça c'est actuellement les catégories qu'on a en termes de hiérarchie dans le crump game. Donc moi, en Suisse, actuellement, je suis une heavy hitters, parce que actuellement, je peux en battle me retrouver en finale facilement. Enfin, c'est maintenant comme ça que je me classe. Mais pendant longtemps, j'étais plus une rookie, puis j'étais j'avais pas de catégorie, c'est un peu comme ça. Et puis après, donc ça c'est, on va dire, les grades comme les étoiles qu'on peut avoir le maillot ou bien la veste. Et puis après, il y a un système de hiérarchie à l'intérieur des FEMS. Donc on a des familles, on appelle FEMS pour faire court. Et dans ces familles-là, il y a une figure qui est le mentor, le big homie. C'est la personne qui a développé le style, qui a développé la philosophie derrière son approche du crump et qui, à un moment donné, se dit ben, « je vais ouvrir ma famille à d'autres apprenants ». Et après, à partir de là, en fait, il y a différents grades qu'on peut avoir au sein de cette FEMS. Donc, il peut avoir Lady, Lille, Junior, Girl, enfin, il y en a plein. Il y a autant de grades que de familles, parce qu'il y a des familles qui réinventent des grades aussi pour que ça corresponde à leurs apprenants. Et puis, ce qui est bien, du coup, c'est que ça donne une organisation assez claire des responsabilités que chacun va avoir dans la FEMS. C'est-à-dire que plus on a un grade élevé, plus le mentor, le big homie, va nous donner des responsabilités par rapport aux autres qui arrivent après. Donc ça fait qu'aussi ça décharge le big homie de devoir, lui, tout seul, gérer 15 personnes, en fait. Et ce qui est bien, c'est que c'est aussi, en tout cas au début, proportionnel au niveau. Donc suivant le niveau qu'on a, on va nous donner un grade plus ou moins élevé parce qu'on part du principe qu'on est plus ou moins apte ou à même de représenter la FEMS aussi à l'extérieur. Et moi, ce que j'aime dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient en ça quelque chose de péjoratif, comme si c'était, je sais pas, comme si on nous posait une étiquette sur le front. Un peu quelque chose qui serait pour moi très réducteur déjà dans comment c'est présenté. Et comme si en fait du coup le bigomie voulait s'approprier une partie de notre travail. Et puis pour moi, ben ça c'est une lecture qui est possible que de l'extérieur, de toute façon de la culture, parce que c'est vraiment comme si on est allé à une école. Et quand on va à l'école, ben sur notre CV on a la ligne, on est allé à Harvard. Puis on va pas dire que Harvard est un peu trop d'ego que de dire ben il est allé à cette école là. Enfin ça paraît tout à fait juste et aussi la considération du travail qui est fourni. Parce qu'au final, les bigomies dans le crump, ils donnent tout ce temps et cette énergie gratuitement. Et on est en train de parler de, je ne sais pas combien d'heures d'entraînement par semaine qu'ils donnent gratuitement à des jeunes qui sont un peu perdus, qui ont besoin de cet outil pour s'exprimer. Et du coup, moi, je trouve normal que quelque part, il y ait quelque chose qui leur revienne quand ces jeunes-là réussissent dans la pratique. Donc, il y a vraiment ce système-là qui est assez clair. Et puis, moi dans le crump, j'ai un grade qui est girl. Donc, je suis girl yardjack. Donc Yardjack qui est un des pionniers du crump en Suisse. Et c'est un grade que j'ai obtenu après m'être entraîné pendant très longtemps avec Yardjack et avoir montré que j'avais un amour pour cette pratique. Et ensuite, normalement, comment ça se fait, c'est qu'il va y avoir un moment, vraiment comme un espèce de rite de passage, où toute la FEMS va danser contre la nouvelle personne qui va entrer dans la FEMS. Donc c'est hyper violent. Il y a des personnes justement qui critiquent le fait que peut-être que c'est du bizutage ou une sorte de harcèlement. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, comment moi, je l'ai vécu une fois, pas pour Girl Yardjack, mais une fois que j'étais rentrée dans le collectif qui est les Warriors, le seul collectif, on va dire, qui est national en Suisse, où tous les danseurs suisses, normalement, font partie de ce collectif-là. Bah, j'avais eu ce cage-là. Et ce qui est clair, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pas l'impression qu'on se sent harcelé, j'ai l'impression qu'on prend conscience que on est soi-même limité mentalement, en fait. C'est là où on prend conscience que le mental a un impact sur comment est-ce qu'on va danser. C'est-à-dire qu'on commence tous très motivés parce qu'on a envie d'avoir ce grade, et après on se rend compte que physiquement on est limité. Et donc mentalement, on commence aussi à se démotiver. Enfin, il y a tout ce processus qui se passe de comment est-ce que tu puises les ressources en toi pour combler tes lacunes. Enfin, il y a vraiment tout ça qui se passe à ce moment-là. Et la FEMS, je trouve qu'ils ont une posture du coup de se dire, ben, nous, on a besoin de voir jusqu'où est-ce que tu peux pousser dans tes retranchements, en fait. On n'a pas envie que tu abandonnes. Parce que si tu abandonnes quand on est à la maison, tous ensemble, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas à l'extérieur ? Je trouve qu'il y a un peu, du coup, quelque chose que moi, je trouve quand même bienveillant, même si ça reste violent. Ça, et j'ai l'impression que tout rite de passage est quand même violent d'une certaine manière, parce que c'est nous pousser à aller à l'étape suivante. Que ça, ça peut pas être doux, quoi. Donc il y a ça aussi qui se passe. Et puis voilà, c'est une culture où il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont plus ou moins douces, plus ou moins violentes, je trouve. Par exemple, il y a cette notion de pack-out. Le pack-out, c'est quand, d'une manière ou d'une autre, on a manqué de respect à la culture. Donc ça peut être simple, comme on arrive tout le temps en retard à l'entraînement. Comme ça peut être quelque chose où on critique un ancien. Donc il y a des choses comme ça qui se passent. Et à ce moment-là, encore une fois, le groupe va dire à la personne, nous, on va danser contre toi. Donc c'est le même principe que le cage, mais avec cette volonté de t'apprendre une leçon. Il y a vraiment cette volonté-là. Et je sais que dans le pack-out, des fois, moi, j'ai été dans certains pack-out où j'ai voulu intervenir parce que je trouvais que c'était trop. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est les moyens que cette culture a de réguler certains comportements. Donc après, c'est comme, je sais pas, aujourd'hui, de dire que de confisquer son téléphone à son enfant, c'est violent. Enfin, après, chacun met la limite où il a envie, quoi. Mais voilà, donc c'est une culture qui est vraiment organisée. Il y a des règles, il y a des récompenses. Justement, quand on a un grade, c'est-à-dire qu'on peut aussi monter en grade. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui font que c'est une culture à part entière qu'il faut aussi comprendre dans son ensemble avant de poser un jugement là-dessus. Mais c'est en termes de famille, de communauté et du coup même de communauté mondiale. Ces systèmes ont aussi permis de développer le crump comme on le connaît aujourd'hui, ou dans tous les pays, presque tous les pays dans le monde, il y a des crumpers. Et ça fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai un réseau parallèle de personnes où si je me dis, demain, je vais en Ukraine, je peux prendre mon téléphone, écrire dans le groupe de crumpers qui sont les crumpers en Ukraine, on va mettre en lien avec des crumpers là-bas et je vais arriver, je vais être accueilli comme si j'étais chez mon cousin. Et ça, c'est quand même incroyable. Tu vois. Et j'ai pas l'impression qu'il y a ça dans beaucoup de milieux artistiques. J'ai commencé la danse, j'avais déjà, je crois, 18 ans quand j'ai commencé la danse. Et après, le crump, j'ai commencé, j'avais 22 ans. Donc, ça reste quand même tard pour commencer une pratique artistique. Du coup, j'ai moins eu ce besoin d'avoir forcément beaucoup de figures inspirantes. Donc, du coup, les figures qui m'inspirent principalement, ça va être mon mentor, mon bigomi, Yarjak, qui, pour moi, lui, c'est un danseur exceptionnel, qui a une intelligence corporelle qui est assez impressionnante et qui a une humilité aussi qui même des fois c'est déconcertant à quel point il a pas envie d'être sur le devant de la scène. Et du coup c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que je suis arrivée tard dans la danse et j'avais besoin aussi de nourriture, d'être nourri par cette pratique et pas que ce soit une pratique pour être cool. J'avais passé ces trucs de fumer pour être cool, danser pour être cool. Là, j'étais juste dans... J'ai besoin d'une activité qui me fait du bien. Et donc, du coup, c'est un mentor qui m'a beaucoup aidé là-dessus aussi à prendre confiance, à m'affirmer parce que c'est forcément que c'est un mouvement qui est tellement grand que c'est facile de se sentir intimidé aussi, du coup, de prendre confiance dans ce que moi, j'avais à apporter. Donc lui c'est vraiment mon inspiration principale. Et après mes inspirations ça reste les personnes qui sont autour de moi parce que j'ai du mal à voir que les réussites de quelqu'un et d'être inspiré par ça. J'ai besoin de voir le processus derrière, j'ai besoin de voir les faiblesses, les failles, la personnalité pour avoir quelque chose un peu qui me mette pas en inconfort. Donc du coup j'évite de regarder ce qu'on voit comme étant la réussite, les personnes qui ont peut-être excellé dans un domaine, et je préfère regarder ceux qui sont autour de moi et qui réussissent parfois, qui échouent parfois. Je trouve que ça me nourrit plus. Donc autour de moi là il y a Dakota et Nadia qui sont en Valais, qui ont fait incroyable talent, qui pour moi sont des danseurs exceptionnels. Ils sont vraiment ils sont touchants parce que autodidactes. Et puis en même temps, qui continuent à se renouveler à chaque fois, comme s'ils avaient développé par eux-mêmes des outils que certains mettent je ne sais pas combien d'années à apprendre en école. Et du coup, moi, ça me touche de me dire, en fait, c'est possible d'apprendre par soi-même et en même temps d'avoir la capacité de se remettre en question pour continuer à progresser. En fait, c'est qu'il y a la possibilité de faire ça aussi. Après, ben, y a d'autres personnes comme donc Girl Main Event, qui, elle, est aussi en Valais, qui est aussi quelqu'un avec qui je m'entraîne parfois. Elle a gagné, je crois maintenant, 3 championnats du monde au total. L'année 2019, elle a gagné, je pense, 10 battles en une année. Enfin, tu vois, des statistiques où tu dis, mais comment est-ce qu'une personne peut faire ça? Et en même temps, quand tu parles avec elle, elle est tellement humble, elle est tellement... une fois que c'est fait, en fait, il n'y a plus besoin d'en parler. Tu vois, elle n'est pas dans un palmarès où elle va te dire tout ce qu'elle a fait. Elle est en train de penser à ce qu'elle va faire par la suite. Et moi, ça m'inspire à un autre niveau, parce que c'est très facile de tomber dans ces failles-là. Donc, en fait, grâce à ces gens-là, ben, je vois aussi ce que j'ai envie de devenir dans ma pratique. Donc ça m'inspire beaucoup plus que, je ne sais pas, les danseuses de Beyoncé, c'est cool, mais je n'arrive pas à me projeter là-dedans. En tout cas, sans connaître leur histoire, leurs failles, leur... Donc voilà, un peu ce qui m'inspire. Mais il y a toujours des choses que je vois qui vont m'inspirer, mais ça reste quand même très peu de choses, étant donné que je ne cherche pas ça. Maintenant, je suis en train d'essayer de faire ce travail-là, parce que je me rends compte aussi que c'est important d'avoir un peu un socle de référence pour pouvoir vraiment avoir le choix en connaissant... Enfin, il y a toutes ces questions qui viennent maintenant, que je dois créer beaucoup plus... de trucs, mais du coup je prends ça comme de la recherche, comme quand t'es en études et que tu dois faire de la recherche dans un domaine, mais je prends pas ça comme vraiment une inspiration comme ça qui nourrit ma danse, tu vois, en tant que telle. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que comme on est en Suisse, et en tout cas quand moi j'ai commencé le crump, j'ai voyagé mais principalement en Europe, et où je connaissais très peu de monde, et puis du coup il y a moins ce besoin de regarder ailleurs, parce qu'ici, il y avait déjà un mouvement qui était développé avec des figures tellement fortes qu'il y a des inspirations ici. Mais après, ce qui est clair, c'est que nous, ce qu'on nous a inculqué dès le début dans le crump, c'est de ne pas justement regarder les crumpeurs américains et de chercher à devenir ces personnes-là. Il y avait aussi une volonté de nos anciens de développer des personnalités, enfin des individualités aussi dans nos danses. Et du coup, je pense que c'est aussi par ce biais-là qu'on n'a pas envie de je sais pas, d'idolâtrer quelqu'un et de se dire ah, cette personne est la meilleure, même si on a conscience que cette personne est forte. Tu vois, j'ai l'impression que ça, c'est peut-être dans la culture comme elle est transmise en Suisse dans le crump. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des gens partout dans le monde qui m'inspirent. Mais j'ai l'impression que c'est plus par moment, je vais être surprise par ça, que des choses dont j'ai peut-être conscience au quotidien ou que je cherche au quotidien, quoi. Je trouve que ce qui est assez beau avec le crump et ce qu'on vit grâce au crump, c'est qu'on part du principe que c'est une danse qui est développée dans un quartier défavorisé à Los Angeles et qui aujourd'hui donne la possibilité à des centaines et des centaines de danseurs de vivre et à des milliers et des milliers de danseurs d'avoir un moyen de s'exprimer qui leur correspond. Et ça, pour moi, c'est tellement beau dans le pouvoir que ça a de développer des nouveaux moyens d'expression. Et après, il y a aussi, ben, si on part du principe qu'on est défavorisé dans une société, il y a aussi ben, pas mal de portes et d'accès à des ressources qui sont forcément un peu limitées pour nous. Et là, grâce au crump, de savoir qu'il y a vraiment cette communauté, ce réseau solidaire, et puis tout simplement juste un peu un sentiment d'appartenance. Je pense que c'est vraiment beau. En fait, c'est déjà suffisamment beau comme ça, sans qu'on en vive. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent aussi de se dire ben, « j'ai réussi à trouver une famille, j'ai des personnes qui me connaissent et qui m'aiment comme je suis ». Ils ne vont pas chercher à devenir forcément le meilleur danseur, ça leur suffit. Donc ça, je pense vraiment que c'est une des meilleures réussites du crump. Après, comme toute danse, voilà, c'est pas, comme toute famille aussi, ce n'est pas tout beau, tout rose tout le temps, mais je pense que ça, en aucun cas, ça annule tous ces apports dans des milliers et des milliers de vies, quoi. C'est assez impressionnant. Je te donne un exemple qui, moi, ça m'avait ému aux larmes, quoi. Donc, il y a des événements partout dans le monde. Et puis, ben justement, mon mentor, il a été apté à un événement en Inde. Et puis, il y a eu d'autres événements en Inde. Mais je me souviens d'un événement en Inde où ils avaient filmé l'arrivée des danseurs. Puis l'événement, il se faisait un peu dans un hôtel. où ils avaient pris une grande salle de conférence, ils avaient enlevé toutes les tables et les chaises. Et puis il y a les danseurs qui arrivent et il y a, je pense, je sais pas, 800 danseurs qui les applaudissent, qui sont là, ah, bravo, bravo, ah, merci d'être là. Et après, il y a une personne qui vient avec des colliers qui les invite, mais comme si c'était justement des porteurs un peu de savoir qui arrivaient et qui allaient pouvoir aussi permettre à des personnes de s'exprimer encore mieux. Et je voyais ces images et je voyais les danseurs, même eux, ils étaient mal à l'aise parce qu'ils se disent, mais en fait, je suis personne. Déjà de un, mais le fait de me dire qu'avec le peu de connaissances que j'ai, bah en fait, j'ai cette importance pour un certain nombre de personnes, en fait, ça te donne aussi une responsabilité. Tu dis, mais en fait, il faut que je travaille, il faut que l'information que je donne, elle soit réellement claire et utile. En fait, c'est que ça, par rapport à la hiérarchie, en fait, ça remet le sentiment de responsabilité à chaque poste. Et souvent, quand on a une hiérarchie, on se dit, bah, c'est qu'il y a du pouvoir. Mais en fait, on oublie que partout où il y a du pouvoir, en fait, il y a des responsabilités. Et moi, je regardais ça et je me disais, mais c'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment à en pleurer, quoi, de se dire que tu peux arriver dans un pays où tu ne connais personne et ces gens-là ont envie de t'accueillir comme si tu étais leur grand frère. Enfin, c'est assez fou. C'est assez... J'espère vraiment que ça va continuer comme ça, parce qu'on sait aussi que des fois, il y a certains mouvements qui commencent comme ça, puis qui après, quand ça s'est un peu développé, c'est devenu mainstream, ben, ça perd un peu cet aspect culturel et de famille. Mais j'espère vraiment que ça va continuer, parce que c'est trop beau. Oui, bien sûr, malheureusement. Malheureusement, il y a un shift à partir du moment où c'est nourri par l'ego, parce qu'il y a toujours... Cette volonté de laisser une trace, tout le monde l'a, à chacun à son niveau. Mais à partir du moment où y a des personnes qui n'ont plus envie de grandir eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus rien à apprendre et maintenant leur but c'est d'avoir un monopole sur tous les cours, toutes les scènes, etc. Ben, y a la possibilité de tuer la culture. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça reste des exceptions. Qui réfléchissent comme ça. La règle, ça reste quand même des personnes qui ont envie de développer leurs compétences et qui ne sont même pas intéressées par... En fait, ils préfèrent ne pas travailler avec le CRUM pour pouvoir garder cette liberté-là. Donc ça montre qu'il y a quand même une volonté de rester soi-même. Donc je pense que ça ne va pas pouvoir se faire comme dans d'autres danses. Donc Cause, en fait, c'est justement un projet qui naît de toute mon expérience en fait, dans la danse. Et je pense que j'ai eu la chance de commencer tard parce que du coup... J'avais une lecture différente aussi de ce que je vivais et je me suis rendu compte que la danse urbaine, c'est une danse qui va toujours exister d'une manière ou d'une autre dans la rue, parce que c'est là où elle est née et puis le but, c'est pas qu'elle existe plus dans la rue. Mais je pense que c'est très, très injuste qu'il n'y ait pas le choix de la pratiquer autrement. Et du coup, je me suis posé la question, mais en fait, quelle solution amener à tout ce qu'il y a déjà, parce qu'il y a déjà des maisons de quartier qui ouvrent des salles ou qui les mettent à disposition de danseurs. Il y a déjà des écoles de danse qui donnent des cours. Il y a déjà, d'une manière ou d'une autre, des individus qui ont des salles, des studios, des garages privés. Donc il y a déjà beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on peut amener de plus pour justement aller vers cette professionnalisation ? Et j'avais l'impression qu'en ayant un lieu dédié à ces cultures-là, un peu comme un espace d'art où on pouvait avoir des moments de répétition, de résidence, mais aussi d'exposition, en ayant à cœur que nos dossiers seront prioritaires dans ce lieu-là, ben ça permet aussi de peut-être motiver certaines personnes qui n'ont pas envie d'écrire un dossier de 25 pages où ils déconstruisent leur vie, leur identité, leur parcours pour qu'on leur donne une salle pendant une semaine. Je pense qu'il y a aussi des fois... de la part de certaines institutions, je trouve qu'on en demande beaucoup sur le plan de vue littéraire, enfin pas littéraire, mais de rédaction de dossiers, et puis aussi de déconstruction, de recul, d'avoir capacité à mettre des mots sur ce qu'on exprime souvent par un autre médium. Enfin, je trouve qu'on en demande beaucoup des fois à des artistes qui ont en fait juste envie de danser. Donc du coup, je comprends aussi que certains artistes, ils se disent, mais en fait, moi, j'ai pas envie de raconter ma vie. Déjà que j'en parle pas à mes proches, j'en parle des fois pas à moi-même, j'ai pas envie de mettre ça sur un dossier. Donc c'est comment maintenant, en ayant tout ça en tête, amener une solution avec un lieu, parce qu'il n'y a pas assez d'espace de répétition, de résidence. Donc s'il y a d'autres danseurs, d'autres cultures qui maintenant cherchent aussi des espaces de résidence, forcément quand on ne règle pas le problème aussi de la pénurie. Enfin, il y a aussi ça. Donc c'est comme ça qu'à la base, je m'étais dit, comme je travaille, je vais louer une salle que je vais mettre à disposition. Et puis après, dans mon entourage, on m'a dit, mais en fait, à aucun moment, c'est ta responsabilité, en fait. Il y a un service public, il y a des individus qui font partie de la communauté, et ça, c'est typiquement un projet qui doit être porté par une communauté et pas par une personne. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, je vais écrire un dossier pour ce lieu, et pour permettre à d'autres personnes qui n'ont justement peut-être pas cette facilité d'écrire des dossiers, de pouvoir être là quand même en soutien et développer et défendre ce projet. Et donc j'ai aussi contacté pas mal d'artistes de la région, j'ai contacté d'autres personnes qui n'étaient pas artistes mais qui étaient un peu activistes dans ces milieux-là, en leur disant moi j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de pouvoir vous citer comme des personnes ressources et des personnes référentes qui vont d'une manière ou d'une autre rendre ce lieu un peu vivant. Et j'ai eu vraiment beaucoup de soutien et après c'est comme ça qu'on a pu aborder la ville et puis on est encore en discussion avec eux, ça prend toujours un peu de temps. Et du coup voilà, le projet du centre c'est vraiment d'avoir cet espace d'exposition, de réseautage, de répétition et aussi un bureau de questions aussi, parce qu'en fait on comprend pas tout de comment ça fonctionne ici. Il y a beaucoup d'administratifs, de créer sa compagnie, remplir des choses là, des dates, des échéances à pas oublier. Et en fait, on a besoin de pouvoir aller poser la question quelque part et savoir qu'il va y avoir une écoute bienveillante et qu'on va pas nous traiter d'illettrés, quoi. Je dis pas que c'est ce qui se fait, mais je dis juste que c'est des fois le ressenti que certains ils ont quand ils constatent qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne. Donc voilà un peu d'où est née cette idée pour le lieu. Donc ça s'appellerait CAUSE, parce que j'aime beaucoup les acronymes. Donc Centre d'art alternatif et urbain suisse émergent. Après, cet acronyme, il peut prendre toutes les formes qu'on le désire, parce que d'une fois à l'autre, je me dis « Ah, mais le A, ça pourrait être ça. » Donc du coup, je me dis que ça restera CAUSE, et puis chacun donnera les définitions qu'il veut à ses lettres. Mais c'est vraiment d'avoir cet espace-là. Et le but de cet espace, c'est pas de remplacer un autre espace, c'est pas de devenir l'Arsenic 2.0 version urbaine, c'est pas ça. Mais c'est justement, dans un premier temps, d'avoir juste des espaces de répétition et pour tout ce qui est moment d'exposition d'être en partenariat avec des lieux qui existent et qui fonctionnent bien et qui font partie du paysage culturel pour permettre aussi à ces artistes de développer un réseau et aussi de travailler de manière professionnelle dès le début, quoi. Donc du coup on a déjà des lieux partenaires, justement l'Arsenic, le théâtre Sévelin 36, la Comédie de Genève. Puis après, on a des lieux privés aussi qui ont accepté d'être partenaires avec nous et à des moments, quand c'est propice, de nous proposer un moment dans la programmation. Et on avait commencé en 2020 avec l'Arsenic. On a fait une fois un jeudi de l'Arsenic, on a proposé un DJ set et une performance. Et le but, c'est d'avoir des moments comme ça où on permet de parler du projet, on peut mettre en avant des artistes. Mais sans espace de répétition, ça reste quand même un projet qui est très lourd sur les lieux partenaires, parce qu'eux, ils ne peuvent pas non plus oublier leur programmation puis nous donner des espaces. Enfin, ce n'est pas non plus leur responsabilité. Je trouve qu'ils font déjà beaucoup en acceptant de nous soutenir, tu vois. Donc, c'est un peu ça, le projet CAUSE. Là, on a pu commencer à vraiment en parler un minimum, mais aussi à vraiment pouvoir poser des actes dans ce sens-là, parce que pour nous, c'est des fois très suisse d'avoir plein d'idées, plein de projets qui ne se réalisent pas. Et nous, on a vraiment envie que ce soit aussi le travail qui parle de ce projet. Donc là, on a aussi monté une scène digitale. On s'est dit, période Covid, pas de rassemblement. Qu'est-ce qu'ils font les artistes? Comment est-ce qu'ils survivent? Et du coup, on s'est dit qu'on allait investir un peu d'argent, contacter des lieux, contacter une équipe de réalisation et leur proposer de, à un moment donné, faire une petite perfo dans un cadre professionnel et qu'ils n'ont pas à se soucier de ce qu'ils ont à payer, en fait. Et on a pu faire ça sur 5... on a fait 5 épisodes, donc il y a 5 collectifs d'artistes qui sont venus et qui ont du coup été filmés par Cause. Et le résultat est incroyable. Enfin, après, je ne suis pas très objective. Mais je trouve que les artistes, ils ont fait un travail qui est magnifique et que le public doit voir. Et moi, ça me fait toujours... ouais, ça me rend toujours triste quand je me dis qu'il n'y a qu'un public qui va voir ça. C'est pas tout le monde qui aura accès à ça. Je me dis, mais pourquoi ? Parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui apprécient qu'une forme d'art parce qu'ils ont vu que celle-ci depuis le début, tu vois. Donc voilà un peu ce qu'on essaie de faire. Et puis on est convaincu que c'est le moment. On sait qu'avant, ça aurait été trop tôt. Plus tard, ça sera un peu trop tard. Les gens, ils en auront déjà un peu marre. Je pense que maintenant, c'est le moment où on a compris qu'il y a des inégalités qui ont des répercussions à d'autres niveaux. Et du coup, on se doit aussi d'amener des solutions. Donc, voilà. Mais on verra si ça fonctionne. Moi, je reste assez optimiste parce qu'entre l'idée de base et puis là où j'en suis, je me rends compte qu'il y a déjà un tel chemin qui a été fait et tout ce qu'on a vu. Donc, je reste optimiste sur le fait que ça va se faire. Mais quelle forme ça aura, où est-ce que ça se fera? Le projet, pour nous, il restera toujours secondaire à la professionnalisation des artistes. Et donc, c'est un peu ça les questions qu'on se pose qui font que là, actuellement, le projet n'est pas encore sorti au public. Mais on a déjà ça comme maquette pour pouvoir justement s'assurer que le projet pourra continuer pour les artistes, quoi. Mais bientôt, je me dis bientôt il y aura quelque chose de concret et on pourra enfin sortir ça. Mais déjà d'avoir pu tourner ça, même pour les artistes, ils nous ont dit qu'ils étaient... ils étaient vraiment contents de... En fait, c'est comme si on les considérait, en fait. D'être contacté et puis on dit non, tu viens, il y a non, t'as pas de souci de ça, tu viens juste à l'heure et tu fais. C'est, ouais, ils se sont être considérés et je pense qu'on a besoin de ça aussi quand on est artiste, quoi. J'ai dit, je suis un peu intense des fois et je considère que là, je suis vieille en fait. C'est moi qui considère ça, personne ne considère ça à ma place. Quand je dis que je suis vieille, c'est que avec la danse que je pratique, je considère que là, mon corps, gentiment, il commence aussi à montrer des signes de limite. Je mets beaucoup plus de temps à récupérer, j'ai beaucoup plus de courbatures, je dois faire des étirements, des échauffements que je faisais jamais, je dois... Bref, je prends conscience du fait que là, c'est plus pour moi ce projet, en tout cas. Mais je sais que c'est un projet qui m'aurait fait... en tout cas, qui m'aurait beaucoup aidé quand j'ai commencé. Et du coup, c'est un peu ça, la trame du projet. Et puis maintenant, moi, par rapport à mon avenir professionnel, j'ai envie de développer un peu ce crump sur les plateaux parce que j'ai l'impression que ça a sa place. Et puis je me dis que si moi, je peux ouvrir la porte, même si c'est pour une année, deux ans, enfin, c'est toujours ça de fait pour la culture. Mais je ne sais pas combien d'années il me reste à danser. J'espère beaucoup, mais j'essaie des fois aussi d'être réaliste et je me dis que... C'est déjà bien que j'ai accès à tout ça. Ben, là, je parlais de Premio que je vais faire à la fin du mois de mai, là. Et puis après, l'année prochaine, j'ai eu Steps, donc, qui est le festival de la Migros, où il y aura une tournée suisse. Enfin, il y a plein de choses qui me sont proposées là. Et je me dis, j'en demandais pas tant, en fait. Donc, c'est déjà beaucoup. Mais je sais que ces choses-là, elles sont proposées déjà parce qu'on part du principe que je suis apparemment professionnelle. Et maintenant, je me dis, ben, comment accompagner les personnes qui ont envie d'arriver sur ces plateaux-là? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie, mais comme je dis, pour moi, la liberté, c'est le choix. Et ben, j'aimerais que ces personnes aient le choix. Et du coup, les deux vont ensemble. Et mon but, ou en tout cas, comment est-ce que moi, je vois l'évolution de ma carrière dans la danse, c'est petit à petit aussi... avoir le rôle peut-être plus de médiatrice. Dans comment est-ce que on peut trouver des moyens d'inclure ces cultures dans le paysage culturel contemporain. C'est un peu ça que j'essaye de faire par le biais de ce projet, mais aussi dans ma pratique de manière générale. Et je vois plutôt un avenir là-dedans. Et aussi, de manière générale, ben, comment est-ce que je peux accompagner ces artistes à développer aussi leur propre potentiel, donc plutôt dans... je sais pas, les gens ils appellent ça le management, enfin je sais pas, les gens ils aiment bien mettre des titres surtout, mais juste un peu accompagner, un peu conseiller les artistes par rapport à ce que moi j'ai vu, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont donner des adresses. Enfin, par exemple, il y a Daya Jones, que pas mal de personnes connaissent à Lausanne, qui, elle, a beaucoup fait aussi. Elle a beaucoup ouvert de portes. Enfin, elle a ouvert beaucoup de portes. Elle continue à donner des conseils. Et tout ça, c'est des réseaux qui se font... ça se fait toujours de manière informelle et ça se fait toujours gratuitement. Et moi, ça m'énerve parce que ça reste quand même des compétences et il y a certaines personnes, c'est leur métier. Donc, pourquoi ça ne peut pas devenir le métier d'autres ? Donc, c'est vraiment plutôt... pas en me disant que ces choses-là n'existent pas, parce que c'est faux, ces choses, elles existent, mais c'est un peu formaliser tout ça et qu'on prenne conscience de ce travail qui est actuellement invisible. Donc, c'est plutôt là où j'espère que je vais pouvoir continuer à évoluer. Et après, par rapport à la danse, maintenant que je sens que mon corps, il commence aussi à moins aimer le crump, je me dis que ce serait bien d'entraîner des nouvelles personnes qui sont aussi motivées et qui, des fois, ont peur de... je sais pas, d'arriver dans une session à 50 et qui ont juste envie d'avoir des échanges à deux. Bah, je mets des fois du temps à disposition pour rencontrer ces personnes. À Sévelin, on va mettre en place un atelier. Donc, il y a les lundis de Sévelin qui vont rester. Plus de ça, il va y avoir deux lundis par mois qui seront dédiés aux danses urbaines. Donc, un lundi qui sera dédié au walking et voguing. Donc, danse queer aussi née aux États-Unis, mais je crois plutôt à New York. Mais ça, il faudra demander aux spécialistes. Donc ça sera dédié à ces danses-là et il y aura un des lundis qui sera dédié justement au crump en non-mixité choisie en principe, donc principalement des femmes. Et du coup, ben, ça permettra à d'autres personnes qui n'osent pas dans d'autres contextes participer, ben, peut-être à commencer à s'exprimer à leur niveau, quoi. Donc c'est cool. Moi, je me dis, on va déjà dans ce sens-là, je suis contente. Comme je dis, j'en demandais pas tant. Mais comme on me propose ça, ben, je peux dire que oui, tu vois, c'est un peu ça.